originale. Soyez les bienvenus avec Leïla Kadour-Boudadi.
Bonjour à tous.
Dom Villa.
Bonjour.
Frédéric Sigrist, Daniel Morin, et Charles-Alain Xacobagno au piano. Et nos invités sont Pascal Armillon et Agnès Jaoui. Merci les filles de venir nous parler d'Aurore, un film de Blandine Lenoir.
Un superbe film.
Dans tout, exactement. Et dans tous les sens de Blandine Lenoir, parce qu'elle l'a écrit, elle l'a dialogué, elle l'a réalisé, elle l'a porté. Il y a sûrement... aussi une part d'elle dans, enfin il y a clairement une part d'elle dans ce film. Aurore, le film sortira ce 26 avril. Est-ce que Tom, vous avez compris pourquoi? J'ai très peur parce que généralement vous comprenez pas. Alors, mais pourquoi déjà, Agnès et Pascal sont nos invités?
Déjà, si je peux me permettre, déjà bonjour. Déjà, je le précise, Nagui, c'est Pascal Arbillot et Agnès Jaoui.
Oui.
Jaoui, je sais. Comme voilà, vous l'avez souvent dit
mais
à cette antenne.
J'ai... Avec Agnès Jaoui.
Voilà. Donc pour s'en souvenir,
j'ai un pote qui s'appelle David.
Que
je salue, qui ça s'écrit aussi avec un J. Et
non, mais
lui
là,
tient ce que ça se
mais là justement, c'est très facile. C'est un J et non pas un D. On n'est pas à Djerba. Donc mesdames, vous venez pour le film Aurore, qui parle de la crise de la cinquantaine chez la femme, avec la ménopause, le fait de devenir grand-mère et la complexité à retrouver du travail. 50 ans pour nos auditeurs, c'était il y a 20 ans. Et et puis nous, les problèmes de cinquantenaire, bah c'est des gens qu'on connaît bien autour de la table avec Nagui et Daniel Morin.
Ouais.
La fameuse crise de la cinquantaine. Alors attention, n'y voyez pas de jeunisme de ma part, mais plutôt l'œil amusé de quelqu'un qui note tout ce qu'il faudra pas faire dans 20 ans. Déjà vestimentairement, c'est pas évident. Daniel, ça va encore, ça fait prof de physique chimie, mais Nagui, il nous sort de ses couleurs des fois. Oh, avec Leïla, on se dit mais elles sont dans le Pantone celles-là ou quand on te pointe du doigt, c'est pas uniquement parce que t'es connu.
Je veux dire, tu vois que ta vanne est mal barrée là, juste avec un.
Oui, bah, vous êtes tombé un mardi, mais le mercredi c'est folklore. Hein, et puis Nagui, c'est un amateur de belles chaussures aussi. Si, ne soyons pas moqueurs. Si vous aimez le bowling, y allez chez le roi Merlin. Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? J'ai même pas fait attention.
Du noir.
Voilà.
Du noir qui brille.
Même Patrick Juvel en voulait pas de celle-là. Non, mais c'est vrai. Il a souvent essayé de se justifier. Oui, mais c'est une grande marque de chaussures.
J'ai
vous savez,
ça,
la
ça
marque avec la semelle rouge. Mais a priori, Christian, il était plus fort pour les femmes que pour les hommes. Hein. Faudra peut-être essayer les talons. Ça peut être sympa. Mais
oh, non, il y en a aussi.
Non, mais si on n'en voit pas beaucoup, c'est pas uniquement parce que le prix bloque. Alors.
On peut parler de la présence
bien sûr.
De Pascal
alors,
et Agnès.
Si je reviens.
Non, non.
Alors comme vous dans le film, ils ont aussi souvent des bouffées de chaleur. Alors du coup, il y a du bon et du moins bon. L'avantage, c'est que pour Nagui, on voit pas les fringues psychédéliques. L'inconvénient, c'est quand on croise des stagiaires de troisième dans les couloirs, le micro à l'air avec les pompes de Ronald McDonald sous acide. Bon bah pour les gamins, c'est la double peine. Ils sont traumatisés. Ils finissent leur stage à France Info. Donc et puis dans le film, vous retombez aussi sur un copain d'école, Agnès, un vieil amour inachevé, comme Daniel. Lui aussi, il est retombé sur une copine d'école, sauf que lui, c'était une copine d'école de sa fille. Donc du coup, c'est gênant. Allez, bonne 50 années à tous et rendez-vous dans 20 ans.
Comme quoi, c'est ce que j'ai dit, il n'a rien compris. Merci Tom Villa. La bande originale,
Nagui, sur France Inter.
Aurore, c'est vous qui l'incarnez, Agnès Jaoui. C'est une femme qui vit tous les bouleversements, que ce soit au sein de sa famille, que dans son boulot, que dans son corps. C'est un virage particulier à appréhender. Et puis, alors vous, Pascal, vous êtes la bonne copine qui la soutient, qui lui...
Qui l'aime,
ouais, c'est vrai. Ouais. Et qui déteste que des hommes plus âgés fréquentent des filles plus jeunes. Ce qui donne des scènes extrêmement drôle. Quand je disais tout à l'heure que Blandine Lenoir avait sûrement écrit un film personnel, c'est comme ça qu'elle voulait présenter, Agnès, ce film, en expliquant le pourquoi du comment de cette histoire.
Elle m'a dit non. Enfin, elle m'a juste, j'ai reçu un scénario qui m'a énormément plu. Et puis quand on s'est vu, et puis c'est surtout après, d'ailleurs, en présentant le film, où elle disait, c'est vrai, enfin, elle a 43 ans. Et que elle voyait la vieillesse arriver un peu comme monsieur, ce jeune homme qui vient de parler, avec un effroi terrible.
Lui, il n'est pas fini, c'est ça.
Non, mais c'est très intéressant ce que vous venez de dire avec cette ironie mordante qui caractérise. Parce que l'autre jour, je me promenais avec ma fille et il y avait une femme aux cheveux rouges vifs. Elle s'était teint, hein, c'était très beau dans le soleil. Et elle fait ah non, c'est une vieille, elle peut pas faire ça, non. Un peu comme ce qu'il a dit sur vos chaussures et vos tenues. Et Et c'est fou. Effectivement, on a l'impression que passer un certain âge, il faudrait disparaître, que c'est honteux, que c'est un peu gênant, et qu'il faudrait surtout ne déranger
rentrer
personne.
Dans l'uniforme du vieux, quoi.
Du pigeon, je crois. Il faut s'habiller en gris clair ou en beige pâle.
Gris foncé aussi, des fois, on peut.
Merci,
alterner.
Gris foncé, c'est gentil. Vous nous donnez une autre possibilité, mais c'est symptomatique. Enfin, elle a 14 ans, donc je l'excuse. Mais voilà, c'est pour ça. Mais c'est symptomatique. Donc voilà. Et elle disait, entre autres, je pense qu'une des choses qui m'effraie, c'est que c'est un âge qui est très peu représenté chez les femmes. Mmh. Il y a très peu de femmes qu'on voit vieillir à l'écran ou enfin, voilà, il y a des chiffres maintenant, même puisqu'on fait des études genrées, elles sont fort intéressantes, qui montrent qu'il y a, je sais plus, entre 3 et 8% des femmes de plus de 50 ans à l'écran. Or, on est plus de 50% dans
c'est
la
fou,
réalité.
Ouais. C'est fou.
Oui, c'est fou.
Et il y a encore moins de films qui parlent des problèmes, justement, des femmes à 50 ans.
Ben non, parce que, vous vous rappelez, on en a parlé il y a un an ici, quand j'ai dit le mot ménopause, il y a eu des fous rires partout autour de la table, n'est-ce pas, monsieur Daniel Morin ? Et voilà,
non,
donc.
Alors que c'est capital, c'est ressort comique aussi quand même. Ces femmes-là, quand est-ce qu'elles se voient représentées ? Quand est-ce qu'elles voient leur vie aussi à l'écran et leur vie d'un côté désirable ? Parce que c'est de ça dont il est question. C'est que si on considère que la ménopause, ce ne sont que des problèmes. Et ce film, en fait, ce n'est pas juste un film sur la crise de la cinquantaine,
bien loin de ça. Ouais.
C'est un film qui donne à voir à ces femmes et aussi aux femmes de mon âge qui vont avoir cet âge-là un jour, je me le souhaite, ce que c'est que cette vie-là et ce que c'est que d'être mise à la case, de considérer que à partir du moment où on est ménopausée, donc on n'a plus ses règles, on ne peut plus enfanter, donc on n'a aucune mission sur Terre.
Le terme même est employé, c'est génitrice dans le film. C'est dans un documentaire.
Oui, oui. C'est Françoise Héritier. C'est Françoise Héritier. Alors, il faut dire que ce film, il est magnifique pour ça, parce que quand on parle de féminisme et qu'on en parle comme ça, comme une discussion de comptoir, où à chaque fois on dit, ah non, mais féminisme, c'est péjoratif, parce que on s'accroche simplement à des propos très outranciers, il faut voir ce film si on n'a pas eu la moindre idée de ce que c'est que le féminisme, qu'il n'y a rien d'un féminisme rageur ou outrancier. On voit des figures comme Françoise Héritier qui explique bien qu'à un moment, la femme sur la pyramide de sa vie et ses étapes de vie, elle est toujours représentée avec quelqu'un et à partir du moment où elle vieillit, elle ne sert plus à rien. Et ce personnage, il est fantastique, Agnès Jaoui. Aurore est fantastique parce que elle nous montre que cette femme-là, elle vient de tout perdre. D'une certaine façon, elle n'a plus de job, il y a ses filles qui quittent la maison.
C'est ça, parce qu'il y a le départ des enfants aussi, qui est une chose extrêmement naturelle, et elle l'aide d'ailleurs, elle fait les bagages et ainsi de suite, mais il faut aussi l'accepter. Ce sont autant de signaux d'une...
Autant de deuil, ça c'est sûr. Ouais. Mais ce qui est très beau dans ce film, c'est que en fait, elle remet l'humain au centre, c'est-à-dire qu'on nous sectorise, etc., mais on n'est pas réduit à des âges, que ce soit le vôtre très jeune ou le mien moins jeune. On est d'abord des êtres humains et c'est vraiment ce qui ressort du film. Et ce qui est frappant aussi, c'est que je trouve que tous les rôles, y compris les petits rôles, les petites scènes, ils existent formidablement. Il y a des acteurs épatants, j'ai envie de tous les citer, Florence Muller, Nicolas Chupin, Laure Calamy, et Pascal Herminio qui est à mes côtés, Leroy Colinet,
oui, voilà.
Enfin bref, il y a aussi des non-professionnels.
Oui, il y a une scène géniale, je pense que c'est une non-professionnelle, c'est quand vous vous retrouvez à faire les ménages et que vous avez une femme à côté de vous qui n'est pas de nationalité française, mais qui a un métier, elle est ingénieure, je crois, dans une autre vie, elle se retrouve à faire le ménage et elle vous parle, et ça c'est complètement dingue, de féminisme intersectionnel, et ça c'est juste génial, c'est se dire que... Ben, on est peut-être différentes, mais en fait, on a les mêmes problèmes.
Ben, elle dit, vous, les Blancs, vous découvrez la discrimination en vieillissant. Et c'est extrêmement intéressant, c'est exactement
c'est ça.
Mais ce qui est beau aussi, c'est que c'est à partir de là que, du coup, elle découvre aussi la solidarité et elle se redécouvre elle-même. Et voilà, tout ça fait la richesse de ce film.
Ouais, c'est vraiment une question de solidarité et d'humanité dans ce film.
En tout cas, je tiens à préciser que c'est un film qui parle des femmes, ça ne parle pas que aux femmes aussi.
Non,
moi, j'ai pris un énorme plaisir à le voir. Oui, oui, vraiment le comportement à la fois attendrissant, mais aussi de combattante. Et puis il y a des scènes extrêmement drôles. C'est pas larmoyant, ça pitoie pas sur des vapeurs, sur des situations avec.
Euh, c'est
je crois
avec
même c'est dans la bande-annonce. Dans la bande-annonce, donc on peut le raconter. Ouais. Il y a de dire vous énervez, votre personnage s'énerve en disant on a inventé plein de choses dans la médecine et rien sur les bouffées de chaleur.
Elle a raison
parce que c'est sûrement le.
Mais du reste, la pilule a été inventée parce qu'il y avait deux féministes qui avaient des maris scientifiques et elles leur ont dit mais elles ont supplié, voilà, et c'est comme ça que ça a été inventé. Autrement,
même chose pour les médicaments pour les règles douloureuses. On se rend quand même compte que l'humanité, c'est 50% de femmes. Et quand tu vois les médicaments qui sont développés pour soulager les femmes, comme si la femme était contrainte à la douleur, quoi qu'il advienne.
Comme l'endométriose, par exemple, récemment. Je pense que c'est une maladie qui a été tardivement évoquée parce que c'est une maladie féminine et que c'est normal qu'on souffre.
Non, alors, est-ce que c'est ça ou est-ce qu'il y a une forme de...
Il y a un tabou peut-être
Oui, c'est de la pudeur en disant c'est l'intimité, on n'en parle pas comme on ne parle pas des règles, comme on... Mais même des règles.
Les mères ont intériorisé le fait qu'on souffre et voilà, c'est...
Faut pas oublier le poids de la religion là-dedans aussi. Ouais. C'est-à-dire que ça a construit quand même l'image de la femme tout au long de l'histoire et ça a souvent été perçu comme quelque chose de issu du démon, les règles, c'était une femme qui saigne, il y a eu un mythe religieux autour très fort.
Absolument, oui, mais ce qui est dit aussi dans le film, et je pense que beaucoup de parents, que ce soit homme ou femme, vont se reconnaître dans cette phrase, la fois où une fille a ses premières règles, la phrase de dire maintenant tu es une femme, elle a dû être prononcée dans tous les foyers pratiquement de la planète. Et ça veut donc dire, et l'enchaînement est fait avec malice, de dire, et donc, lorsque ces règles s'arrêtent, ça veut dire que je ne suis plus une femme.
Je suis quoi ?
Voilà.
Mais même en audimat, la ménagère de moins de 50 ans, donc après, nous, quand on a plus de 50 ans, est-ce qu'on est répertorié dans un...
C'est vrai.
La ménagère de plus de 50 ans.
Alors maintenant, on dit la femme responsable des achats.
C'est vrai ?
Parce que oui.
Ah ouais, parce que
il faut. Ce qui est beaucoup plus glorieux.
Après 50 ans, on achète.
La seule chose qui les intéresse, c'est qui pousse le caddie et qui va acheter quoi. Et donc, quelle est la publicité qui a eu l'influence sur
ça. C'est une vision hyper occidentale, parce que ça soit en Afrique ou même aux Antilles, des femmes de plus de 50 ans, 60 ans, ont toujours une position hyper centrale dans la maison, on les voit sur les petits dans les télé-révélas, etc.
On l'avait dit à ce micro pourtant à ce micro qu'à l'époque des Gaulois c'était très matriarcal au contraire et que la femme avait une place beaucoup plus importante qu'elle ne l'a eue ensuite. Et tu as raison et on l'avait dit, les religions n'ont pas aidé à ça.
Françoise Héritier, elle travaille justement là-dessus. C'est donc une sociologue, anthropologue, et elle travaille sur la place de la femme non féconde dans les sociétés. Et justement, elle explique qu'il y a certaines sociétés où certaines femmes après la ménopause, accèdent au statut d'homme, justement. Oui. Donc, elles ont le droit de jurer, de dire des gros mots, elles ont le droit de se bourrer la gueule, elles ont le droit d'uriner debout.
Est-ce qu'on peut savoir où c'est, ce pays ? Parce que, franchement, moi, ça m'intéresse. Ça m'intéresse beaucoup.
Et c'est une question de religion et de pouvoir et de domination. Il y avait des féministes qui disaient que si les femmes étaient dominées, justement, par rapport à nos règles, on se vanterait de qui elle est plus longue et qui elle est plus douloureuse, comme même concours qu'il peut y avoir pour autre chose, c'est les garçons.
Donc le point de départ étant une expérience personnelle de Blandine Lenoir, en tout cas, sur ce sujet. Et puis alors je voudrais qu'on parle un tout petit peu, et même beaucoup, de votre rôle aussi, Pascal Arbillot, parce que vous êtes la copine, mais qui va déclencher beaucoup de choses dans la vie, notamment le regard que vous portez sur elle est un regard admiratif, et vous lui redonnez goût à la séduction.
Oui, puis parce que comme elle est assez fantasque, libre et elle a pas de discours,
elle a pas de filtre
non plus, mais du coup je pense qu'elle apporte de la joie, de la vie. C'est pas un personnage dont on connaît les douleurs et c'est pas le propos, c'est pas le sujet. Et dans la vie d'ailleurs, les gens comme ça qui sont toujours solaires, joyeux et qui sont très pudiques,
peut-être souffrent dans leur intimité,
c'est une femme très très vivante et surtout qui fait partie de la famille d'Aurore. C'est-à-dire qu'elle est accueillie, je ne pense pas qu'elle ait une vie, on ne la voit pas mariée, elle n'a pas d'enfant, c'est un choix apparemment, et elle est très heureuse, elle peut aller chez Aurore quand elle veut. Alors elle est proche des enfants, des filles d'Aurore.
Elle est agent immobilier.
Agent immobilier, il y a le truc, les visites.
C'est vrai,
j'avais oublié.
C'est pas trop méchant. Elle demande et elle propose à Aurore
de faire semblant d'acheter.
D'être là déjà au début et de dire c'est formidable, j'adore.
J'adore la cheminée.
Pour inciter le client qui arrive après. Excusez-moi, mais il y avait deux rendez-vous croisés, qui est peut-être un vieux truc des agences immobilières, j'en sais rien, mais en tout cas, c'est extrêmement drôle et ça permet justement, quand je dis que ça a un effet, un impact.
Et en plus, c'est un personnage qui permet de faire rencontrer, c'est vrai, elle permet à Aurore de retrouver son premier amour par hasard. Elle-même rencontre un homme par hasard qu'elle insulte et bon, on verra plus tard qu'elle a bien fait de l'insulter.
Et puis elle incarne cette amitié féminine que on ne voit pas non plus si souvent à l'écran. Et c'est vrai que on est nombreuses à avoir des amis maintenant qui sont, enfin moi c'est mes sœurs, mes amies, je les connais depuis l'âge de 7 ans, certaines deux que j'embrasse très fort. Si elles n'étaient pas là, ma vie ne serait pas la même. Elles sont essentielles à ma vie et ça aussi. Et je tiens à dire publiquement à quel point j'étais heureuse que Pascal, que j'adore et qui est une comédienne merveilleuse et tellement drôle, ait accepté ce rôle parce que.
Et moi, j'étais heureuse de retrouver Agnès aussi.
Est-ce que c'est pas aussi le rôle de ce film, c'est-à-dire que ce film est le rôle aussi d'une amie, et parce que les amis se rassurent aussi entre elles en disant et toi, comment ça se passe, et toi, comment tu le vis, et ainsi de suite. Est-ce que ce film-là n'est pas fait pour le montrer simplement et encourager ou rassurer peut-être celle qui s'inquiète de ce qui pourrait se passer
C'est essentiel. On est souvent montré comme des rivales. Vous connaissez ce fameux test de Bechdel? Peut-être.
Non,
je ne le connaissais pas non plus avant. C'est un test qui pose trois conditions pour que le film passe le test. Il faut qu'il y ait une scène, qu'il y ait deux personnages féminins identifiés.
Alors, c'est un test pour un film.
C'est un test pour tous les films qui a été fait.
D'accord.
Alors, il faut qu'il y ait deux personnages féminins identifiés, avec un prénom, un nom si possible, mais déjà un prénom c'est pas mal, qu'elles aient une scène ensemble et que dans cette scène, que cette scène ne soit pas uniquement à propos d'un homme. Croyez-moi, peu de films passent ce test.
Ce qui est dingue, en fait.
Très peu de films.
Vous seriez étonné. Ça paraît extrêmement simple.
Ça paraît extrêmement simple. Eh bien, regardez. Et voilà. Et alors que dans la vie, encore une fois.
Vous parlez d'autre chose que des hommes.
Non, mais non seulement ça, mais encore une fois, c'est essentiel d'avoir des copines et des copains, hein, d'ailleurs. Voilà, l'amitié est primordiale. C'est souvent pas tellement montré à l'écran. Et dans ce film, ça l'est.
C'est un film qui donne à réfléchir, mais qui fait rire aussi, qui est divertissant. Qui est agréable et on l'a dit extrêmement bien joué. On n'a pas cité, je pense, ou si on l'a fait peut-être tout à l'heure, Thibault de Montalembert.
Il y a Philippe Rabot aussi,
Samir Ghesmi, Eric Villard.
Voilà, il y a un casting dingue. Thibault faisant le carton du moment à la télévision en ce moment, puisqu'il est dans 10%.
Et génial.
Et grand bien lui fasse.
Et c'est le cas aussi de cette dame de Pôle emploi, Laure Calamy, qui est dans 10% aussi. Voilà, c'est les deux comédiens de 10% qu'on retrouve dans ce film.
Qui joue sa secrétaire d'ailleurs, dans 10%.
Ouais, absolument.
Ah oui.
J'ai malheureusement pas tout le casting, j'arrête pas de le demander de se citer, mais on va essayer de se le procurer pour vous donner tous les noms des comédiens. Non, il est pas dans le dossier de presse, j'ai cherché aussi, c'est gentil, Leïla, de faire l'effort. Non, il y a tout, il y a les techniciens, les scénaristes.
Oui, mais pour une fois, c'est bien.
Il n'y a pas le casting.
On peut lire la liste technique.
On peut lire l'ingénieur du son que nous savons au passage.
Michel Pitou.
Vos oreilles ont sifflé, Leïla, quand on vous annonçait la venue de Pascal Arbiot et Agnès Jaoui.
Et oui, et quand je pense à vous, Pascal, déjà, je souris et je le garde, ce sourire. Parce que j'ai beaucoup de raisons de sourire avec vous. Je pense notamment à Un amour qui ne finit pas d'André Roussin, mise en scène par Michel Faux, Juillet-août de Diastème, mais aussi un joli film que j'ai beaucoup aimé, c'est Papa was a Rolling Stone.
Vous vous attendiez à quoi?
Aux grandes écoles? Eh oh, on atterrit là, on est en zone d'éducation prioritaire ici. Vous n'êtes pas en train de faire vos courses au salon de l'étudiant, Mathilde?
Ça, c'est ma cité, les 4000. C'est ici que j'ai grandi.
4, 5. Maman, j'ai un stage de danse. Tu voudrais pas essayer?
Ah, vas-y, demande à ton père.
C'est pas mon père.
Si, je suis ton père. Oh, je t'ai reconnu. Ou fiasse.
C'est un film de Sylvie Ohayon où vous incarniez une conseillère d'orientation bon chic, bon genre, confrontée tout d'un coup à un univers que vous maîtrisez pas du tout.
Pas du tout. Pas du tout.
Et c'est un film qui porte un regard touchant sur cette jeune fille qui cherche à tout prix à échapper d'une certaine façon à son déterminisme social. Accepter ce film, Pascal Arbiot, c'était un choix militant. C'était comment ça s'est posé à vous, ce projet-là?
Ben oui, parce que moi, j'aime bien l'idée de pouvoir faire de temps en temps juste une scène, mais dans un film que j'aime. Et qui est une metteur en scène qui a un propos.
Ou un metteur en scène, hein. Je suis pas du tout sexiste. Et j'aime bien l'idée de continuer, même encore aujourd'hui, à faire des courts-métrages, à faire des choses qui apparemment ne sont pas utiles pour une carrière.
Ouais.
J'en ai besoin, ça me nourrit, ça me fait du bien. J'en ai absolument besoin. Je pourrais pas faire sans ça. Mais c'est dur, hein, parce que arriver sur un tournage une journée,
une scène, ouais.
Qu'est-ce que c'est dur.
Mais pourtant cette scène, elle est quand même importante.
Elle est super. Pas la scène, mais elle était
ouais. C'est si dans la elle scène était super,
mais très très dur à jouer. J'ai eu un trac fou là. Heureusement que, alors je commence à connaître les techniques, hein, justement, que je retrouve. Donc je m'accroche à la script. Oh, je te connais. Ah, tu te souviens il y a 10 ans. Ah ouais. Donc je la regarde intensément. C'est dur. C'est toujours dur. C'est plus facile de développer un personnage quand on a 30 jours, tout ça.
D'accord.
Ouais. Mais j'y tiens, c'est mon petit combat personnel. Voilà, j'y tiens. J'ai tourné un court-métrage il n'y a pas longtemps. J'adore les petits rôles. Et j'adore
ça. Et vous aussi, Agnès, c'est important comme ça de se dire, tiens, si je peux, même le temps d'une journée pour un tournage, participer à un film dont le propos me plaît ou juste le personnage, tout d'un coup, d'y aller.
Moins déjà.
Je sais pas, pourquoi pas, je trouve ça super, mais je peux pas dire, enfin, comme je le fais jamais, je me sentirais.
Et pourquoi vous le faites pas? Parce que ça se propose pas?
Oui, c'est... non.
Peut-être qu'ils osent pas aussi.
On me le propose pas.
Ils disent peut-être que tu.
On me le propose pas, non.
Ouais. Ben voilà, il faut le proposer à Agnès Jaoui, on sait jamais.
Voilà, proposez-moi des tout petits rôles d'une journée, s'il vous plaît.
Non, c'est super dur. C'est tellement dur.
Non, mais je comprends que ça puisse être dur de prendre le train en route. Ouais. C'est sûr que c'est particulier.
Mais moi, je sais pas, j'en ai besoin.
En tout cas, c'est un très beau film et moi, j'étais ravie de vous voir dedans. Voilà, c'est toujours un gage de qualité quand je vous vois dans un film, Pascal Arbillot, de toute façon.
Pas toujours.
Majoritairement, quand même. Moi, ce que j'ai vu récemment, en tout cas.
Ah, c'est gentil.
Okay. Non, vous avez des doutes.
Et au théâtre aussi. Et chaque fois qu'on est allé vous voir au théâtre, tous autant que nous sommes, on a adoré.
De rester au théâtre. Bah oui. C'est essentiel. Ouais.
À vous, Agnès Jaoui, j'aimerais vous parler d'un film, Une femme d'intérieur, de Christophe Blanc, l'histoire d'une femme, une rue.
C'est une femme d'extérieur. Pardon.
D'extérieur, pardon. Ouais, j'ai marqué l'intérieur.
C'est le 2, ça.
On en a parlé. J'adore ce film. Il est extraordinaire, ce film.
C'est l'histoire de cette femme. Là encore, un personnage fort. J'ai pensé à Aurore aussi, d'une certaine façon. Pour pas mal de raisons. Une rupture après 15 ans de vie commune, une vie qui prend un autre tournant, allant jusqu'à laisser parfois de côté son rôle de mère, chose qu'on pardonne pas facilement à une femme et plus facilement à un homme.
Tu te rends compte tout ce que je pourrais pas connaître si on était restés ensemble? Tu te rends compte? Toute cette vie qui serait passée à côté de moi, j'aurais connu que la moitié des choses.
T'as quand même conscience que tout le monde pense que ça va mal finir tout ça, hein?
C'est marrant, hein, Jacques? Tu changes pas, hein? Tu vois des choses que t'as envie de voir. Les choses t'arrivent et puis t'en profites pas. La vie, ça te fait rien.
C'est la musique de Choses de la vie. Il a eu le droit de la.
Ouais. Non, c'est pas la musique. Enfin, c'est la musique des Choses de la vie, mais c'était pas la musique du film.
Ah bon? C'était la musique qu'on avait sur la bande-annonce, qu'on a pu retrouver. Donc, une femme d'extérieur, de Christophe Blanc. Et vous dites que c'est le film ou un des films qui a le plus compté dans votre carrière de comédienne. Dans quelle mesure, je me demandais?
D'abord, c'était la première fois que j'avais un premier rôle, donc c'était important pour moi. Ensuite, Christophe Blanc, quand on parle de film de femme ou film d'homme, je trouve que ça n'a pas beaucoup de sens. C'est un homme, donc, qui a fait un portrait de femme, et puis pas qu'un, parce qu'après, il avait fait le portrait d'une adolescente, et puis, enfin voilà, qui a un regard sur les êtres humains, et donc sur aussi les femmes, assez rare. C'est un film que j'aime beaucoup, qui est fort, je trouve. Voilà. Enfin, je ne l'ai pas revu depuis longtemps, mais je pense que...
On a une pression supplémentaire, comme vous dites, c'était mon premier rôle. C'est, à part évidemment l'honneur qui est fait ou la responsabilité qui est donnée, mais on se met une pression supplémentaire en se disant « tout repose sur moi
». Un peu, d'ailleurs, j'adore pas ça, en fait. Hein. Je préfère, quand on est plusieurs...
Mais là, avec Aurore, c'est... vous êtes carrément l'affiche
du film, j'ai remarqué ça. et c'est un rôle principal. Mais c'est ça qui est dingue, c'est encore une fois... Tous les autres rôles, y compris ceux qui ont une scène, sont remarquables et remarqués. Et ça, j'en suis très heureuse. Mais bon, par exemple, même des one man shows, je pourrais pas faire ça, je crois. Je préfère
le partage.
Oui, et puis avoir justement pas me sentir la responsabilité d'un échec ou d'un succès. Je trouve pas ça. Je trouve qu'on est toujours mieux à plusieurs.
Et je me demandais dans quelle mesure commencer par un film comme Une femme d'extérieur. ça conditionne pas une carrière, ça vous met pas dans une pensée particulière. C'est pas comme si vous avez commencé avec une comédie grand public avec un rôle avec parfois un peu stéréotypé. Je me demande si une femme d'extérieur, c'est pas un...
Je sais pas, ça c'est difficile de se rendre compte parce qu'en plus il n'a pas eu un immense succès non plus. Donc
non, mais c'est pas
tant
le succès, mais c'est vous dans le rôle.
Ah, je sais pas. Je sais pas. Je sais pas.
En tout cas, Agnès Jaoui et Pascal Arvillot sont à l'affiche d'Aurore. Le film sortira ce mercredi. Un film où il y a également, je tiens à le préciser, Vincent Allard qui est à la régie générale. Ainsi qu'Amandine Escoffier en première assistante réalisatrice. Ouais. C'est toujours très important
et Boris à la coiffure.
Oui, absolument.
Absolument.
Boris, super sympa, Boris Garcia.
Voici l'humeur de Frédéric Sigrist. Bonjour.
Alors,
bonjour.
Oui, voilà.
Bonjour.
Dernièrement, je me souvenais du 22 avril 2002. J'avais 23 ans.
Et 21 40... avril.
Oui, non, je me souviens du 22.
Ah, du 22.
Pas du 21. J'avais 23 ans et 47 kilos de moins. Oui, 47 kilos, 32 kilos d'enfants en moins. Et le reste, c'est moi. Et on vivait dans un petit studio de 19 mètres carrés dans le 12e arrondissement. Avec ma femme, on a vécu 4 ans là-dedans. Alors sincèrement, quand tu arrives à vivre à deux dans 19 mètres carrés, la tête dans le frigo et les pieds dans la salle de bain, tu sais définitivement que tu es fait l'un pour l'autre. Hein, c'est un peu comme en prison, la promiscuité fait qu'au bout d'un moment, il y en a toujours un des deux qui finit par faire la femme de l'autre. Oh. Alors à l'époque, ma femme terminait ses études d'histoire de l'art, tandis que moi, je finançais mes cours de comédie en travaillant de nuit au SAMU social. Alors autant dire qu'on a toujours été très très loin de payer l'ISF. Je bossais au 115, la plateforme téléphonique où on reçoit des appels de sans-abri à qui on va poser des tonnes de questions administratives avant de leur dire qu'il n'y a plus de place dans des centres d'hébergement. Et c'est toujours loin, très long de joindre le 115, mais c'est parce que les conversations elles-mêmes sont très longues. Hein. Essayer d'avoir une conversation avec un individu éméché, c'est comme essayer de dialoguer avec un nourrisson. Tu pars avec un sérieux handicap. Pardon monsieur, vous vous appelez comment? Vous pouvez répéter? Ça prend combien de B? Et je me souviens que la veille, sur notre petit téléviseur à tube cathodique, à 20h, on avait vu apparaître les visages de Jacques Chirac avec 19,88% et Jean-Marie Le Pen à 16,86% pour annoncer les vainqueurs du premier tour. Je vais être honnête, ça m'avait pas traumatisé pour tout vous dire à l'époque, parce que moi, la politique à cet âge-là, c'était comme la calvitie et les biberons au bisphénol, ça me concernait pas. Hein, j'ai grandi dans une cité HLM entourée par des potes noirs et arabes, pour qui un politicien, c'était le nom qu'on donnait en général à un vieux gars qui avait une cravate. Hein, ça allait pas beaucoup plus loin. Ce que je connaissais de la politique, je le devais plus au guignol de l'info qu'à mes profs d'histoire. Pour ma femme, par contre, ça avait l'air d'être un peu plus important. La preuve, le soir même, moi, je voulais me mater un épisode de Buffy contre les vampires, et elle a insisté pour regarder la suite de la soirée électorale. Vu qu'elle avait un cursus littéraire, je me suis dit que ça devait être encore un truc d'étudiant en lettres, un peu comme écouter du Brel, du Brassens et du Barbara, un truc pour se donner du genre. Et je me souviens que l'après-midi du 22, je suis allé à mon cours de théâtre où je payais 450 euros par mois pour regarder des jeunes comédiens plus beaux et plus talentueux que moi interpréter des rôles qu'on me donnerait jamais. J'ai compris beaucoup plus tard qu'une place de ciné coûtait moins cher et produisait exactement les mêmes effets. Et tu sais, le genre de cours où tu viens en pensant jouer le Cid et tu termines dans une pub pour du CIF. À mon arrivée, tout le monde ne parlait que de l'élection. Et à un moment, un des apprentis comédiens qui avait des tendances trotskistes, je savais même pas ce que ça voulait dire, il s'appelait Cédric, m'a demandé ce que j'avais voté pour le premier tour. Une sorte de Romain du avec le cerveau d'Olivier Besancenot. Ah, j'ai répondu machinalement, je vais pas voter. Et là, je pense que je lui aurais dit que je venais d'une région où mon père était le frère de ma mère, ça serait mieux passé. Tout d'un coup, à ses yeux, mon abstention me plaçait sur l'échelle de l'ignominie entre Mengele et Freddy Krueger. Jean-Marie Le Pen au deuxième tour, c'était ma faute. La défaite de Lionel Jospin, je sais même pas qui c'était, c'était ma faute. Responsable de tellement de choses sans même m'être déplacé. Et les jours qui ont suivi, j'ai vu des milliers de jeunes défiler dans les rues pour faire barrage à Jean-Marie Le Pen. L'idée d'avoir un président Front National ulcérait toute une partie de la France. Les politiciens de tous bords avaient décidé d'établir un front républicain, hein, tous derrière Chirac. Et il y avait guère qu'Arlette Laguillier qui avait appelé à voter blanc. Elle pouvait pas oublier la politique libérale de Chirac et ses déclarations sur le bruit et l'odeur. Je réalisais pas encore bien ce qui se passait à l'époque, jusqu'à ce que je retourne bosser au SAMU social. Là, la nuit qui a suivi, je suis tombé au téléphone sur Aminata Diabaté. Je me souviens très bien de son prénom. Aminata, elle pleurait au téléphone. Elle était seule avec son fils, à la rue. Elle cherchait une chambre parce qu'elle avait plus d'hôtel social. Elle était malade parce qu'elle était venue en France rejoindre le père de son enfant qu'il avait laissé tomber sans ménagement. Aminata, elle faisait des ménages de temps en temps, mais sa situation et sa santé lui permettaient pas de trouver un boulot stable. Son fils, lui, il était scolarisé et je l'entendais au téléphone qui bavardait tout seul dans la rue derrière sa mère. Aminata aussi, elle m'a parlé des élections. Elle m'a demandé pourquoi les Français avaient voté pour le FN. Putain, elle vient d'arriver et elle a déjà plus de conscience politique que moi. Elle m'a demandé ce qu'elle avait fait de mal. Elle était juste venue retrouver son mari et se faire soigner. Elle m'a demandé si c'était vraiment ça, la France. Et j'ai pas su quoi répondre. Le lendemain, j'ai voulu avoir l'air moins con. J'ai cherché ce que Jean-Marie Le Pen proposait pour la France. Et je finissais à peine de comprendre son programme que Jacques Chirac était élu à 82%. 82%. C'était en 2002, il y avait des gens qui criaient leur peur et leur rage dans la rue, et le ministre délégué à l'enseignement professionnel du gouvernement, Lionel Jospin, Jean-Luc Mélenchon à l'époque, était en tête des manifs après avoir appelé à voter contre l'extrême droite. Mais ça, c'était en 2002. Aujourd'hui, on est en 2017.
Bravo.
La bande originale, Lévis, sur France Inter.
Je t'aime, mon Frédéric, je t'aime. Et je tiens à préciser que c'est pas une posture que tu prends et que le 115, c'est vraiment par là que tu es passé. Mmh. Je tiens à le dire aussi, parce qu'il y a toujours une part de fiction, d'humour, mais là c'était d'humeur et de cœur. Merci, Frédéric. À 11h35, on va voir un petit bout de la bande originale. C'est bien, ça a jeté...
Oui,
c'est bien, non,
mais
désolé, c'est
bien.
Non, ça jette pas un froid.
Non, ça jette pas un froid. Ça renvoie une réalité.
Ça donne un peu d'épaisseur.
Qui... ouais. C'est bien. J'avais envie qu'il y ait un petit bout de silence après ça. Aurore, le film sort après-demain et... j'ai dit une bêtise ? Non, c'est demain.
Demain, et c'est demain. La meilleure chose après, que vous demain. Puissiez faire entre ouais. deux tours. Voilà. Oui, ça. Moi, ça m'a fait un bien fou, quoi. Voilà,
c'est vrai que c'est un film d'entre deux tours.
Non, mais c'est vrai. Moi, j'ai des enfants de culture, ça, hein. là, en ce moment, et c'est ce film-là, c'est vraiment une très belle chose que vous pouvez voir, et c'est un beau cadeau.
Merci. Et c'est aussi une leçon de la vie qui dit un peu ce que vient de dire Frédéric Siri, c'est-à-dire qu'il ne faut pas non plus s'habituer au pire. Le pire n'est pas forcément quelque chose de normal. Il
et
faut
on peut choisir
le
la solidarité.
Et... Exactement.
Elle existe aussi.
Exactement. Toutes ces valeurs essentielles.
Si on faisait tous l'amour, là.
ça fait penser à une scène, à une réplique de Pascal Armillo dans le film. C'est extrêmement beau.
Oui, parce qu'on n'a pas dit d'autres personnages. Aurore, en plus, c'est ça qui est génial, c'est qu'elle sait faire une chose et on lui fait remarquer que cette chose ne sert à rien. Ah oui. C'est savoir le nombre de lettres qu'il y a dans un mot. Ouais. Et j'ai trouvé que c'était un petit détail de rien du tout sur le personnage, mais en fait qui veut dire beaucoup, qui prend une vraie importance dans l'ensemble du film.
Et on apprend que exceptionnel comme vous les filles au féminin, ça a 14 lettres. En 1983...
Bien compris le film, Nagui.
Je trouvais ça joli, exceptionnel. Au masculin ou au féminin ? Au féminin, 14 lettres. En 1993, Agnès Jaoui scénarise The Smoking, No Smoking. Pascal Arbillo plaque tout pour le théâtre. Et Agnès Jaoui, écoutez, Queen. Pull my trigger, Mama, life is just begun. Pas une histoire très gaie non plus, hein, Bohemian Rhapsody, c'est Queen avec la sensibilité de Freddie Mercury, évidemment. La ça musique, on sait, a une place très importante dans votre vie, y compris dans le film où vous chantez aussi, où vous dansez aussi, vous aimez la musique. La musique et le travail, est-ce que lorsque vous écrivez, puisque là je parlais de l'écriture de Smoking, No Smoking, est-ce que lorsque vous écrivez, vous écoutez de la musique ou il faut au contraire le silence plus total dans la pièce ?
Ah, en écrivant même avec Jean-Pierre, il n'y a pas de musique, ça nous distrairait. Après, j'écoute évidemment tout le temps de la musique et par contre, ça nourrit mon écriture, mais hors le fait même d'écrire, quoi. Enfin,
voilà. Et ça nourrit votre humeur aussi. En fonction de l'humeur, vous écoutez un morceau, mais à l'inverse, est-ce qu'un morceau peut venir changer cette humeur ?
Mais oui, ouais. C'est le pouvoir de la musique, incroyablement. consolateur et qui fait de vous une héroïne de chaque instant. Enfin, voilà, c'est vrai.
C'est vrai.
Ça nous accompagne et tout d'un coup, rater une marche et se casser la figure devient hyper intéressant parce qu'il y a une belle musique en même temps. Enfin bon, j'ai n'importe quoi, mais c'est...
Et Queen et Bohemian Rhapsody, ça correspond à quelle humeur, à quel moment?
Je sais pas. En fait, ça me fait pleurer quand même un peu tout le temps. Mais je trouve cet homme fou. Ce chanteur, cette sensualité, cette beauté, cette force, cette tristesse, enfin, c'est, voilà, oui, c'est. Mais c'est. Cette liberté, enfin, c'est fabuleux, ce.
Et puis, on retrouve ce qui peut être aussi important dans l'écriture d'un scénario. Enfin, j'ai jamais écrit de scénario, jamais fait de musique, mais en écoutant Queen pendant que nous parlons, il y a beaucoup de ruptures. Il y a beaucoup, ça s'accélère, c'est doux, c'est violent, c'est le rythme-là. Ouais, il n'y a rien de plat. Donc j'imagine que c'est ça aussi qui est important et qui vous parle.
Ça, c'est très particulier. C'est un vrai petit opéra qu'il a écrit, ou grand opéra d'ailleurs. Enfin, donc, c'est assez rare. Et c'est vrai que j'aime assez ça. Les musiques qui sont que couplet-refrain m'ennuient un peu plus. Enfin, j'adore quand ça part dans tous les sens comme ça. Et cette phrase est terminée.
Et on va quand même, avec tout le respect que l'on doit à Freddie Mercury, à sa mémoire, citer Brian May, Taylor et Deacon aussi, qui faisaient partie du groupe, parce que c'était vraiment un travail de groupe. À ce moment, donc, dans ces années-là, Pascal Arbillot, elle, écoutez, là aussi, c'est bien barré comme il faut, Björk.
Oh yes.
À fleur de peau. Hein.
Ouais.
On imagine.
Je connaissais l'ordre des chansons, l'album entier. Ce qu'on fait plus aujourd'hui, maintenant, on achète une chanson par album. L'époque des Portichet, tout ça. On regardait sur MTV les premiers clips. Moi, ça m'a accompagnée une année, Björk.
Et c'était l'année Sciences Po ou c'était l'année après Sciences Po?
C'était 99. Oh, c'était bien après. Moi, j'aimais Sciences Po, ça remonte à 80. Je sais même plus quand, quoi.
Ouais, 88, quoi. Oublions, enfin, vous avez lâché.
Non, j'étais en tournage. Je sais que j'étais en tournage à Prague. Mon premier téléfilm avec un rôle dramatique, important. Et à Prague, c'était tellement. C'était dur à l'époque. C'était tous les tournages étaient délocalisés là-bas. Et je regardais MTV en boucle dans ma chambre, quoi.
Là, on est en 93. Ouais. Il y a une phrase qui saute à vos yeux dans une annonce. Mmh. Cette phrase, vous devez encore l'avoir en mémoire.
C'était
essentiel.
Vraiment, j'adorerais retrouver le. Ouais, l'essentiel de ne pas avoir peur. Cours de théâtre. Je travaillais, je crois, à l'époque. Ouais, j'étais journaliste à mi-temps dans un magazine financier.
Oula.
C'était dingue. Et il y avait. Et un mec a mis une annonce. Et je sais pas, c'était en gras. C'est comme un mantra. Donc j'y suis allée. Et c'était un jeune élève du conservatoire qui venait d'ouvrir un cours. J'étais la seule élève. Il avait loué une salle rue Saint-Roch. Et j'étais la seule élève.
Vous n'avez pas eu peur à un moment donné en disant ça, c'est le plan?
Non, les non autres, c'était...
N'ayez pas peur.
Et il m'a mis une lumière dans la figure. Il m'a dit, vas-y, récite quelque chose que tu connais. Je me suis dit, mais je ne sais rien. Et ça a commencé comme ça. Et en fait, j'ai trouvé ça assez génial. Je suis allée au deuxième cours la semaine d'après.
Là, il vous a attaché, vous avez trouvé ça.
Moi, il m'a fait ramper par terre en jouant un rôle, je ne sais plus quoi. Et là, il m'a dit peut-être que tu devrais faire un vrai cours. Et voilà. Je pense que sans ce jeune homme, j'aurais peut-être pas été comme
ça. Vous n'aviez pas de modèle de d'actrice
Non, à l'époque, non. Je pense que j'avais un amour pour les textes, grâce à mes parents et à mon père en particulier. Qui à l'époque me faisait lire très tôt Sartre, à 10 ans, il ne voulait pas que je lise de BD, il fallait que je lise Les Mains Sales. Et je me souviens que j'avais des. En fait, je crois que je suis venue indirectement à ce métier par le texte et par les propos politiques. Je ne sais pas, j'ai toujours associé finalement. Alors après, on ne fait pas du tout de politique quand on est comédienne, parfois, quand on joue des rôles, comme tu disais tout à l'heure, Leïla, ou parfois on est. Moi, j'ai fait des comédies où c'était des stéréotypes. Mm-hmm. Et
vous incarnez un personnage, oui. Après, il faut.
Est-ce
qu'il y a des moments où vous pouvez être en désaccord avec le personnage que vous jouez? Ça vous trouble?
Ah, bah oui, mais tant mieux, parfois.
Ouais, c'est ça, oui.
Parfois, tant mieux, c'est bien de jouer des... Justement, on a bizarrement.
Les folles, les serial killers.
Oui,
les...
ou, ouais. Ou des même un facho. Enfin, c'est...
Des fachos.
Ouais, des fachos. Parce qu'il y a ça en nous, on a une violence intime. On n'est pas que gentil, que tolérant, que solidaire.
la jalousie, l'envie, c'est quand même des choses qu'on vit tous. Et en tant qu'enfant, on l'a vécu, on l'a plus ou moins réglé en plus. Et au contraire, c'est un exutoire, c'est une catharsis, comme on dit. Et puis,
Vous voulez dire qu'il y a un facho qui sommeille en nous?
Bah, bien sûr, en moi, bien sûr. Mais ne me donnez surtout pas le pouvoir. Caligulette étant moi.
Caligulette.
Panzerine, quoi.
On retient donc le message, ne donnez pas le pouvoir aux fachos.
Ah non. Dites donc, j'ai...
En 2008, Agnès Jaoui, écoutez.
Parlez-moi de la pluie et non pas du beau temps. Le beau temps me dégoûte et me fait grincer les dents. Le bel azur me met en rage, car le plus grand amour qui me fut donné sur terre, je le dois au mauvais temps, je le dois à Jupiter.
Fatigué, Freddy Mercury, sur ce coup.
Vous écoutiez donc Georges Brassens, L'Orage, et c'est en écoutant cette chanson que vous avez eu l'idée de cette phrase, donc parlez-moi de la pluie, que vous avez choisi comme titre de ce film, où jouait d'ailleurs Pascal Arbillot, et vous dites, je n'aurais jamais dû prendre ce titre.
Bon, disons que c'est un titre que je trouve toujours aussi joli, mais force est de constater que personne ne l'a jamais retenu. En général, on me dit, ah oui, le film La pluie, après la pluie, sur la pluie, à côté de la pluie, avant l'orage, enfin bon, mais personne ne sait dire ce titre, et donc c'est pas un bon titre dans ce sens-là.
Au sens marketing du terme, si vous voulez.
Au sens, oui.
Il n'a pas marqué la mémoire où il était... Oui. Alors que c'est vrai que quand on entend L'Orage de Brassens, c'est la première phrase dite dans la chanson, et elle paraît évidente.
Elle paraît évidente, mais elle ne marche pas comme titre de film, et ça n'a pas d'importance. C'est quand même un titre que j'aime beaucoup, mais voilà.
On était dans l'humiliation...
Qu'est-ce qu'il y a, Nagui?
Ah, donc, si, je sais de quoi vous allez parler.
Voilà. Chacun se sent humilié, ou plus exactement, victime d'une injustice ou d'une discrimination.
Oui, enfin, vous voulez dire que c'était un des sujets du film. Oui, absolument.
Sexisme, racisme.
Oui, et comment parfois, du coup, on peut s'enfermer dans cette position-là. Ça me fait toujours bizarre quand les victimes se combattent leur combat. Enfin voilà, moi j'ai plus souffert que toi.
Il n'y a pas une échelle de valeur dans la souffrance, quoi.
Il n'y a pas de hiérarchie dans la peine.
Non, voilà. Et on peut être pour plusieurs causes à la fois. On a le droit.
D'ailleurs, dans le film, c'est le cas.
Oui.
Et d'ailleurs, la femme, c'est important de le dire, n'est pas une victime.
Jamais.
Quand vous avez.
Et pas castratrice non plus.
Pascal, quand vous avez entendu cette chanson, vous avez dit, on a entendu susurrer dans le micro, ça me fait pleurer.
Bah oui, mais parce que d'abord, c'est un souvenir de tournage, un souvenir de rencontre. Avec Agnès, et je ne suis pas mélancolique d'habitude, mais de cette période-là, de ce tournage-là, et de l'histoire de ce film-là, du sujet du film,
Okay. Vous jouez donc dans Parlez-moi de la pluie, ouais. Vous recevez un Rému dans la,
ah oui,
la catégorie.
C'est le seul, c'était la seule année où ça existait, je crois que j'ai le seul Rému. et je vous dis, je l'ai toujours et il n'a plus de tête. Je l'ai fait tomber et le Rému n'a plus de tête. Voilà, mon Rému, mais il est toujours là.
Le seul Rému qui a été donné, vous l'avez pété.
Je lui ai coupé la tête. D'accord. Il était en stuc, le truc en stuc, je ne sais pas comment ça s'appelle.
Il donnait pas le pouvoir.
Ouais. Voilà. Il donnait rien. Il comprenait toutes les têtes.
Donnez pas de prix, donnez pas de pouvoir, ne donnez rien. Comme nous voulions parler et approfondir le sujet passionnant d'Aurore, on a pris évidemment le prisme de la cinquantaine chez la femme en demandant à Anne Durfour-Mantel, vous êtes psychanalyste, docteur en philosophie, vous avez publié plusieurs ouvrages dont La sauvagerie maternelle, L'envers du feu, La puissance de la douceur, Se trouver, la psychanalyse en tout cas nous aide-t-elle à moins souffrir, entre autres tout ça aux éditions Payot. Je reviendrai sur la défense du secret après. En quoi la cinquantaine, on l'a déjà beaucoup évoqué, mais c'est vraiment un âge essentiel dans la vie d'une femme?
Symboliquement, c'est le tournant de la vie, et c'est un moment où, comme le dit très, très bien ce très beau film, où c'est, ce qui est envisagé, c'est beaucoup des deuils, alors qu'au fond, c'est le moment où on peut rechoisir sa vie. Et dans une société, ce qui est assez frappant aujourd'hui, où où les êtres ont l'impression de ne pouvoir à peu près rien choisir, ou très peu, ou de moins en moins. Il y a cette idée de, voilà, c'est même pas une injonction, c'est tu peux choisir ta vie à nouveau, et il reste encore beaucoup de temps pour l'inventer. Et je trouve que ce film fait passer vraiment avec des portraits, notamment un rapport mère-fille absolument magnifique, qui est souvent peu montré comme ça.
J'ai presque envie de parler d'un double portrait, parce qu'il y a deux filles avec deux caractères, deux comportements totalement différents et deux situations qui montrent la diversité d'ailleurs de ce qui se passe.
Oui, l'adolescence et une femme. Parce que c'est vrai que c'est au tour de la fille d'être mère, et donc il y a aussi la castration symbolique de devenir grand-mère, c'est-à-dire que elle doit passer son tour en quelque sorte. Elle n'est plus celle qui va porter la vie, mais qui va accompagner. Donc ça, c'est un moment assez compliqué aussi dans la vie d'une femme. Et puis aussi, pareil, on est dans un moment de société où on ne marque plus les seuils, paradoxalement. C'est-à-dire que l'adolescence et il faudrait qu'on soit éternellement adolescent, comme on dit aujourd'hui. Ouais. Et donc, surtout, les seuils doivent disparaître. Celui de l'adolescence et celui de la ménopause.
Mais alors, comment gérer tout ça? Parce que, comme vous l'avez dit, il y a plusieurs deuils, et on le voit extrêmement bien dans le film, entre les enfants qui quittent le foyer, entre la difficulté de trouver du travail. C'est valable aussi bien pour les hommes que pour les femmes à cet âge-là. Quand on est senior, on ne rentre plus dans les fichiers de Pôle emploi, de devenir grand-mère, comme vous l'avez dit, d'accompagner la vie plutôt que de la porter, d'avoir un questionnement sur l'amour, de redécouvrir ou découvrir une forme de sexualité, alors qu'on ne parle pas non plus du fait que l'on puisse faire l'amour après la ménopause, comme si tout s'arrêtait en même temps. Ça se gère par... vous êtes psy, c'est à vous de me dire d'ailleurs, comment vous l'expliquez à celle qui vous pose ces questions en disant, voilà...
Je dirais oser prendre le risque de son désir, et ça reste très transgressif. Je crois qu'on continue à apprendre aux femmes à désirer être désirable, plutôt qu'à désirer être désirante. Et ça change, quand cette position subjective peut changer, tout s'ouvre autrement. Moi, j'ai découvert notamment, ça fait 25 ans que je suis analyste, c'est que, je dirais, la plupart des femmes découvrent le plaisir tard, après 35 ans. C'est absolument étonnant à quel point c'est tardif par rapport à...
Inquiétant, oui.
Oui, mais... Et du coup, 50 ans arrive dans un moment, pas, en fait, d'ouverture d'elles-mêmes.
C'est parce qu'elles ne connaissent pas bien leur corps, c'est parce qu'elles ne savent pas demander ce qu'elles aiment.
Peut-être que c'est eux qui connaissent pas bien leur corps.
Je suis désolé, Nagui, mais on vous a menti beaucoup de fois.
Il y a un manque de transmission des mères aux filles.
La suite de ma phrase était, elles n'osent pas demander ce qu'elles aiment, parce que sûrement elles connaissent leur corps.
Preuve de curiosité.
Non, elles peuvent aussi dire voilà ce que j'aime, voilà ce que je voudrais que tu me fasses.
Par rapport à toi, Nagui, là, c'est...
Enfin, je sais pas.
Mais je pense que j'allais dire, il y a une sorte de...
Je trouve ça dingue de ne pas connaître le plaisir avant, en moyenne.
Il y a une sorte de surmoi social, on va dire, qui est passé de tu ne feras pas le mur, tu ne connaîtras pas le désir, etc. Là, je parle d'il y a très longtemps, à tu connaîtras le Kama Sutra à 18 ans. Ouais, et vrai. En fait, ça produit peut-être encore plus de refoulement. Parce qu'elles connaissent toutes les figures, tout est parfaitement à sa place, et le rapport intime au plaisir, à la jouissance, au risque, au fond, au risque de ce qu'elles aiment, de ce qu'elles font, mais aussi du côté masculin, je crois, et sous silence, et au fond, et apprendre la relation, toute cette découverte, ça reste tout aussi rare, peut-être même plus encore.
En plus, ce qui ne doit pas aider, c'est maintenant la manière dont l'apprentissage de la vie sexuelle se fait sur Internet. Avec des images qui sont des clichés qui doivent d'ailleurs aussi bien castrer les mecs que...
Mais ça met un tu-dois là où on devrait s'en emparer. Et ce tu-dois, jouir est paradoxalement plus enfermant presque que le tu ne dois pas sortir ou tu ne dois pas les prouver. Parce que qu'est-ce qui reste comme espace pour s'y risquer à ce moment-là? Quels sont, au-delà des images? Sinon, ça fait pas grand-chose, je dirais.
Ça fait pas grand-chose?
Non. Quoi? Non, je veux dire, c'est pas en soi le fait...
Qu'est-ce qui fait pas grand-chose?
Méfiez-vous, ne répondez pas.
de regarder ou non YouPorn, etc. C'est pas si
grave que ça.
Non, c'est pas. C'est...
Non, mais ce qui est triste dans ce truc-là, c'est qu'à chaque fois, les vidéos, souvent, elles terminent par le plaisir masculin et pas féminin. C'est vrai qu'on. Allez, on a une autre question. Non, mais c'est vrai.
C'est ce qu'il y a différentes rubriques.
Ce qui est très important, c'est la solidarité féminine, c'est-à-dire c'est l'amitié dont vous parliez, dont parle ce film très bien. C'est-à-dire que là, il y a vraiment quelque chose qui est aussi très très important pour passer ces étapes et pour pouvoir risquer, oser risquer.
Qui donne envie et qui donne envie d'avoir 50 ans aussi. Bah, je sais pas, moi, en voyant le personnage d'Aurore, je me dis, où votre personnage, Pascal, parce que vous avez des enfants, Aurore, vous n'en avez pas, et donc c'est pas une fin en soi, mais en tout cas, c'est dans cette complicité, comme s'il y avait quelque chose de plus centré, qu'on se connaissait davantage.
Alors justement, Leïla, pour vous une question, Anne Dufour-Mantel, est-ce qu'il y a une manière de se préparer à ce bouleversement hormonal? On l'a pas suffisamment dit, c'est aussi tout le corps ou la sensibilité qui change. Est-ce que ça se vit seulement ou ça se prépare?
Je pense que des personnes, des médecins, des amis, etc. peuvent ou qui l'ont traversé, peuvent aider à ne pas trouver ça anormal et donc s'enfermer. Comme toujours, c'est dangereux dans le silence ou dans une honte, où beaucoup de femmes le vivent dans une forme de honte. Et après, je dirais, moi je trouve qu'un des chemins, c'est se dépréparer. C'est-à-dire que la névrose, c'est ce qui ne cesse de vous préparer à, en fonction de ce que vous avez vécu dans le passé. Elle a horreur de l'inédit. Et une des choses qui est belle dans l'existence, c'est d'une certaine façon de ne pas être prête à l'inédit, de pouvoir le vivre.
Et donc j'ai bien compris que vous aviez apprécié ce film.
Ah, beaucoup, beaucoup.
Défense du secret, Anne Dufour-Mantel, ça commence par une situation extrêmement grave et paniquante, c'est-à-dire un enfant joue à cache-cache et il entend une conversation qu'il ne devrait pas entendre, qui le concerne, et sa vie en devient totalement bouleversée. Et personne, ni les parents, ni ses copains, ne vont savoir qu'il ne sera plus jamais le même après la révélation de ce secret. C'est ça le point de départ. Ça s'appelle La Défense du secret, c'est publié chez Manuel Payot. Merci Anne. Merci. D'être venue à ce micro. On se rend compte, Daniel Morin, que la cinquantaine, pour une femme, c'est une période qui peut être compliquée à vivre, avec le départ des enfants, on l'a dit, la ménopause, on l'a dit, il peut y avoir un sentiment de vide, de remise en question, une situation très humaine, et malheureusement les gens passent à côté.
Oh, la petite féministe, la petite fémène, la petite chienne de gagarde. Quelle belle initiative et tentative de mensonge, monsieur Guy. Nous faire croire que vous pouvez être sensible au sort d'autrui. Est-ce que c'est bon? Mais cela ne sert à rien. La France de moins de 50 ans, celle qui pousse le caddie, vous connaît, monsieur Guy. Vous faites partie de la catégorie d'hommes qu'on appelle les masos. M-A-S-O. Macho, analphabète, salopard, oppresseur.
Moi?
Oui! Vous êtes même la tête de gondole de cette section. Eh bien, croyez-moi, pourtant, ça ne me choque pas. Oui, pour revenir à votre complainte mal jouée à la flûte de Pan qui vous sert de pipeau, vous tombez une nouvelle fois à côté, car ce que vous avez décrit me fait plus penser au paradis qu'à l'enfer. Oui, vivre sans môme, copuler sans risque de se reproduire, vacances, aller à Marbella, Ibiza, Mykonos, la grande mode, que sais-je. Bon projet, non? Bon, après, faut pas être regardant sur son physique. Mais comme avec l'âge, on voit moins bien. Ça m'arrange, hein, je vais vous dire, ça m'arrange. Et comme on entend moins bien aussi les railleries des autres, on s'en fout au final. Hein. Et il n'y a pas que les femmes que la cinquantaine peut traumatiser. Oui, tenez, par exemple, vous, monsieur Guy, même si vous êtes plus proche de la soixantaine, vous pourriez, même si vous n'êtes pas victime de ce trauma, vous le pourriez. Bon, et vous devriez même, hein, un petit peu plus quand même, car si ce n'est physiquement, au moins intellectuellement, vous devriez vous rendre compte du vide qui s'installe. Eh bien, moi, j'ai envie de dire, tant mieux pour vous, vous êtes au top ou dans le déni. Profitez-en, Alzheimer vous rappellera à l'ordre assez vite, monsieur Guy. Allez, oh, les cœurs, les quinquas, plus de barrières, plus de frontières, on prend les drogues dures, on se débarrasse de ces vieux principes poussiéreux, genre moralité, vertu, on s'en fout. Allez, plus de vide, de la remise en question, total éclat assuré. Voilà, c'est aussi simple que limpide, monsieur Guy, une nouvelle fois. Croyez bien que ça m'accable. Vous avez dit...
N'importe quoi. Merci, Daniel Morin. La bande originale, la vie sur France Inter. Et dans la bande originale d'Aurore, il y a... Il y a même deux versions de cette chanson. Dans le film, il y en a beaucoup dans la vie. mais I ain't got no life, Nina Simone, j'adore. Ça s'appelle Aurore, c'est au cinéma demain et on vous encourage à aller le voir. Pascal Arbillot et Agnès Jaoui sont nos invités. C'est la bande originale, soyez les bienvenus avec Leïla Kadour-Boudali, Eric Sigrist, Tom Villa,
bonjour.
Daniel Mora,
bravo Daniel.
Et nos invités Pascal Arbillot et Agnès Jaoui. Au cinéma avec un film qu'on vous encourage à voir, qui est un film intelligent, vivant,
qui sort quand
drôle, demain. Oh. Ça s'appelle Aurore, avec donc Agnès Jaoui, Pascal Arbillot, mais également Thibaut de Montalembert, Sarah Succo, Lou Roy, Le Colliné, j'espère que je prononce bien.
Le Colliné.
Je voulais saluer également Stéphanie Haro, qui a fait le montage de ce film.
C'est qui, chef op?
Et excellent. Dimitri Olé est au son. Et
Boris Pierre Garcia à la coiffure.
Exactement.
Très sympa,
tu tiens, Boris, ouais.
Mais non, parce que Boris est très sympa en plus.
Il y avait également, alors, il y a, en partenaire,
il y a
le
Carbonel.
Et partenaire, il y a le CNC, la Banque Postale Image 9, il y a Cofimage 28, Canal+, France Télévisions et OCS. Voilà, merci à eux d'avoir permis l'existence de ce film, parce que sans eux, ça ne serait pas possible. Il ne faut pas se moquer, je ne le fais sans aucune dérision, malice. À part, j'aurais adoré avoir le casting global de tout, mais c'est vrai que j'ai oublié de citer Samir Ghezmi, parce que il y a quand même dans cette histoire de cette vie qui est, et pour ceux qui nous rejoignent à midi 8, cette vie qui est bouleversée de cette femme Aurore, qui a un job mais qui est en fait dans une transition. Elle a un job parce que le resto dans lequel elle bosse a été vendu à un personnage haut en couleur qui change les prénoms du personnel parce que ça fait plus brancher,
Nicolas,
ça fait plus
Chupin,
moderne.
L'acteur.
Tellement drôle.
Ouais,
tellement drôle.
Génial.
J'ai pensé à Jacques-Antoine Grandjean quand je l'ai vu avec le patron de vente privée. J'avais l'impression de le voir tellement. Ouais, avec ce côté.
Mais en même temps,
c'est
très violent parce qu'il lui enlève son identité. Donc c'est aussi ça, c'est fondateur. C'est-à-dire, tu n'es plus rien du tout, tu n'es même plus toi-même, t'as plus ton prénom.
Non, t'es un personnage pour la clientèle.
Oui, puis il la met derrière le bar parce qu'il met des jeunes filles devant. Oui,
faut pas plaisanter.
Pas le prendre personnellement, c'est marketing.
Et donc elle, comme elle ne pouvait pas être virée parce qu'elle avait trop d'ancienneté dans ce bar, c'est elle qui démissionne, qui se met donc en danger, en plus dans la situation sociale.
Mais elle s'en rend pas compte à ce moment-là, elle est sûre qu'elle va retrouver du boulot très facilement.
Et puis elle a travaillé toute sa vie aussi avec son mari, elle a jamais été déclarée, donc c'est encore un autre cas de plein de femmes qui se retrouvent dans cette situation-là, qui n'a pas les annuités, on va dire, nécessaires, en tout cas qui met sa vie en péril sur le long terme.
Mais c'est ça qui est étonnant, c'est qu'en fait c'est une femme qui vit beaucoup de drames, mais en fait c'est des choses qui arrivent à peu près à toutes les femmes de 50 ans.
Sauf que là tout arrive au même moment, à peu près.
Mais non, c'est souvent la force du cinéma au même aussi. Moment qu'on est ménopausé, que ses parents tombent malades, ça d'ailleurs c'est pas dans le film, mais aussi que ses enfants
quittent le foyer, voilà, que l'un de ses enfants peut mettre au monde un enfant, que retomber sur un amour de jeunesse, ça
arrive aussi.
Ça peut arriver, mais peut-être pas forcément. Au même moment.
Non,
mais finalement, c'est la seule chose qui soit positive pour elle à ce moment dans sa vie. C'est pas cet amour ?
Non, 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 non. Ce qui est positif, c'est que je pense qu'elle va finir par du coup se retrouver elle-même et puis retrouver la valeur justement de ses amis, d'autres. Il y a ces vieilles dames qui sont dans une maison de retraite.
Formidable.
Thérèse Claire qui avait fondé ces maisons là où ces femmes vieillissaient ensemble, où elles étaient une sorte de façon d'autogérer en fait.
Mais ça existe encore. C'est la maison des Baba Yaga à Montreuil. Donc en plus tout ça est basé.
On rappelle le principe, ce sont des personnes qui ont une petite retraite, mais qui finalement en mettant dans un tronc commun cette petite retraite
grosse retraite. Mais qui veulent vivre ensemble.
C'est-à-dire qu'ils la mettent en commun.
Voilà, qu'ils la mettent en commun et qui emploient à ce moment-là des assistantes ou des aides à domicile qui viennent leur faire la cuisine, le ménage, et ça leur permet de garder.
Mais de ne pas vieillir seule, surtout.
Et de garder du dynamisme. Mmh. Et il y a cette comédienne formidable qui a une voix.
Et Robardis, qui n'est pas comédienne en plus.
Un peu trop porteuse de tabac, malheureusement, mais qui qui raconte son dernier orgasme devant Aurore qui le découvre en demandant mais quand était ce dernier orgasme? Ben, il y a 3 ans. Non, c'est extrêmement drôle, c'est malin, c'est fort et émouvant. Et encore plus émouvant puisque malheureusement cette personne est
décédée 15 jours avant
la sortie du film.
Voilà. Non, 15 jours. Enfin, elle a pas vu le film terminé, donc ça, oui, c'est
encore plus fort et encore plus émouvant quand on le sait. Ça s'appelle Aurore avec Pascal Larbillot et Agnès Jaoui. Ça sort demain et Pascal encore une fois est d'une. Mais alors là, je vous aime aussi dans ces personnages dingues, ouais. Mais quand même avec du fond parce que elle est dingue celle-là, mais elle a aussi beaucoup d'amour et elle s'est passée beaucoup.
En fait. Ouais. Dans la vie, il y a des gens comme ça qui ont une forme de folie.
Et vous avez peut-être lancé une mode avec le gag.
Excusez-moi. J'ai anticipé le.
Non, pas le manteau. Non, je parle de la bague.
Super.
Non, je parle de la bague.
Il faut avoir sur soi
une bague en toc pour pouvoir
le. C'est possible parce que.
Mais c'est drôle.
Tu peux le faire à tous tes amis aussi. Quand tes amis sont. Faut expliquer. Tes amis sont au café, par exemple, et qui draguent une fille. Rien de tel que d'arriver dans la conversation en disant mais alors, t'es pas rentré, tu donnes pas de nouvelles, les enfants, comment on fait?
Et de jouer la régulière, entre guillemets.
Et c'est qui celle-là? Ça, c'est génial. Génial.
C'est horrible.
C'était assez humiliatoire à jouer. Hein.
Mais oui,
mais
quelle bonne idée.
Et
ce qui est formidable aussi, puisque au moment où ça intervient dans le film, et évidemment, on a défloré la vanne, mais de la voir jouer, interpréter au moment où ça arrive dans le film, rassurez-vous, l'effet sera encore là. C'est qu'on se demande si c'est ou pas vraiment votre mec ou pas au moment où ça arrive. C'est extrêmement fort. Voilà, c'est bien interprété et c'est drôle et ça servira d'exemple d'ailleurs au comportement d'Aurore un tout petit peu plus tard dans le film. On vous encourage à le voir, c'est demain au cinéma et c'est signé Blandine Lenoir. Voici c'est demain, oui, voici maintenant Daniel Morin.
Oui, tout de suite. Oui,
alors, on n'a pas le choix.
Non, obligé, cahier des charges. Bon, à part la catastrophique nouvelle du départ en pré-retraite de François Fillon, qui du coup n'aura jamais à s'expliquer devant la justice, jamais à justifier des slips de luxe en peau de crocodile du Nil hors de prix que lui offrait Nagui chaque année. Jamais il n'aura à s'expliquer.
Pourquoi?
Ben non.
Ben si. Voilà.
Ben non, il n'aura pas à s'expliquer. Vous lui offrez chaque année des trucs insensibles, insensés.
Insensibilisés.
Non mais à part ça, vous avez tous entendu cette terrible nouvelle. L'autre, Kim Jong-un. Veut anéantir les États-Unis. Il l'a dit. Il veut rayer les States de la carte. Bon, si je peux me permettre, Kim. Je sais que tu nous écoutes. Je sais que c'est une tradition chez les dictateurs d'écouter les émissions animées par d'autres dictateurs. C'est comme ça. Ah oui, Nagui, il y a 5 ans, il écoutait tous les soirs le Saddam Hussein Show. Enfin, bref. Je sais que tu nous écoutes. Je vais te donner un petit conseil. Même si je ne suis pas un spécialiste en géostratégie militaire, si tu es un pays à rayer de la carte, commence pas par les États-Unis, Kim. Ou alors, le dis pas, fais-le carrément, hein, sinon je te jure tu vas énerver Donald. Il est sensible, le requin, il est hyper sensible. Un soir tu vas te coucher pépère, vers les 4h du matin tu vas te réveiller avec 200 missiles à l'entrée de ta piole, 5 drones qui vont te filmer avec au bout 3 roquettes. Il y a même des chances que dans ton plumard, d'un seul coup, il y a un commando en pyjama camouflage avec à la main des flingues qui vont te faire dans le crâne des trous plus gros que la tête. Non, arrête Kim, c'est pas une super idée. Déjà qu'avec tes fusées intercontinentales qui retombent comme des vieux zizi au bout de 20 mètres, tu fais rire tout le monde. Maintenant, ça suffit. Arrête. Attention. Kim, les Donald, c'est comme les Vladimir. Faut pas les faire chier. Et puis un jour, si par hasard arrive au pouvoir une chef d'État prénommée Marine Hartung, c'est comme Donald et Vladimir. Faudra pas la mettre de mauvais poil. Non, non, elle ira pas de mettre une bombe sur la tête. Par contre... Tu la fous en rogne, c'est nous qu'elle va emmerder. Hein. Bon, après ces petites recommandations à caractère géostratégique, passons à quelque chose de plus local. J'ai lu ça hier, 13 associations viennent de saisir le Conseil d'État à cause de nuisances sonores dues à du trafic aérien des associations de gens qui habitent près de Roissy et d'Orly. Non mais les gars, quand vous avez acheté les baraques, ça vous a pas mis la puce à l'oreille, le grand panneau avec marqué dessus « Aéroport international » Hein? T'aimes pas le bruit d'avion, tu t'installes pas à Orly, encore moins à Roissy. Si l'agent immobilier t'a dit « Oh, vous verrez, oui, ça fait pas autant de bruit que ça. » Si tu l'as cru, c'est ton problème, camarade. Hein? Non, mais c'est comme si un gars était allergique au bruit des trains et qu'il achète un appart Gare du Nord.
Ça n'a pas de sens. C'est comme si un animateur qui voulait devenir riche postule à Radio France. Ça n'a pas de sens. C'est comme si tu voulais inviter un collègue à bouffer sans vouloir ton dépenser d'argent que tu choisisses Frédéric Sigrist. Ça n'a pas de sens. C'est comme si tu voulais rester fier de vivre au sein d'un espace commun avec des pays partenaires et que tu décides de ne pas aller voter le 7 mai. Ça n'a pas de sens. À demain.
Bravo Daniel.
Aurore sort demain au cinéma avec Agnès Jaoui, Pascal Rabillot, entre autres, mais pour elle, vous avez préparé un spécial brouillon de culture, Leïla.
Oui. Agnès, Pascal, je vous sors de la promo un petit bol d'air. C'est notre brouillon de culture, histoire d'apprendre à mieux vous connaître. Et on commence par un son pour vous, Agnès.
Sur la plus haute branche d'un grand arbre était perché un petit oiseau, ami de Pierre. Tout est calme ici, gazouillait-il gaiement.
C'est un court extrait, Jacques Brel, en tant que récitant de Pierre et le loup. Gérard-Philippe l'a fait, François Morel aussi, et vous également, Agnès Jaoui. Qu'est-ce que vous gardez de cette expérience? Vous l'avez vécue à la Philharmonie de Paris, je crois, notamment.
Ouais, notamment. Avec l'Orchestre de Paris et puis Yuta Casado à la direction. C'était extraordinaire, comme à chaque fois que j'ai pu travailler avec un orchestre et un orchestre symphonique, mais c'est un bonheur fou d'être au milieu des instruments et d'entendre les répétitions. Enfin, c'est... Et puis, c'est un conte magique. Et en plus, j'avais une représentation normale, on va dire, et puis une autre devant des classes entières d'enfants. Et ça a été... Et en plus, je pouvais pendant un quart d'heure faire le programme que je voulais. Donc, je les ai fait chanter. Mais c'était jubilatoire. Puis c'est une œuvre splendide. Enfin, ouais.
Et si on devait dire deux mots de Pierre et le loup, parce que c'est un souvenir d'enfance pour beaucoup, mais je crois qu'on est assez nombreux à pas vraiment se souvenir de quoi il est question.
C'est l'histoire de Pierre qui... Moi, je me rappelle plus tout d'un coup. Il part se promener et puis... Il attrape le loup. J'ai un bug intégral.
Eh ben, c'est pareil. Et la même chose comme
non,
vous.
Non, mais moi, je l'ai travaillé l'année dernière.
C'est pas l'histoire de celui qui crie
au loup. Qui appelle le loup, le loup.
Non, c'est pas...
Non, ça, c'est la chef de Monsieur Seguin, ça.
Non, il ramène le loup à la fin. Il va se promener. Il est en fait très ingénieux. On lui dit de faire gaffe au loup. Il y a une morale...
Il a un pistolet avec un petit bouchon.
J'ai complètement zappé, c'est effrayant. Parce que, pareil que vous, quand j'ai retravaillé, je me suis dit, bah tiens, finalement, je ne me rappelle pas de la histoire. Je fais, ah ça y est, maintenant je la connais. Et voyez.
Et ben, elle a disparu. Ben, moi, c'est la même chose. C'est marrant,
en tout cas, si Pierre nous écoute et qu'il veut nous raconter la fin de l'histoire,
Pierre
nous appelle ici.
Voilà, c'est ça. Mais qu'est-ce que vous avez fait chanter aux enfants en présence? Parce que j'imagine avoir toute cette foule devant vous, à la Philharmonie ou dans un autre lieu.
J'ai essayé de leur expliquer justement ce que c'était que l'harmonie et ce que c'était qu'un accord. J'ai essayé aussi de poser toutes les questions que je me pose moi-même. Ouais. C'est-à-dire, qui donne le la? Pourquoi? À quoi servent les baguettes? Les chefs d'orchestre, quand est-ce que c'est apparu? D'écrire un peu les instruments, enfin voilà, j'ai essayé d'interagir un peu, et donc je les ai fait chanter des accords, enfin en partageant la salle en trois, et puis pour qu'ils se rendent compte de ce que ça voulait dire, ce que ça signifie.
Et c'est effectivement Pierre, un jeune garçon, le loup, on me dit.
Merci. Pierre, un jeune garçon, vit dans la campagne russe avec son grand-père. Un jour, il laisse la porte du jardin ouverte. Un canard profite de l'occasion pour aller nager dans la mare toute proche. Il se querelle avec un oiseau. À ce moment, un chat s'approche. L'oiseau, alerté par Pierre, s'envole pour se réfugier dans un arbre. Le grand-père de Pierre ramène le garçon à la maison en bougonnant et en renfermant la porte, car le loup pourrait surgir. Pierre attend que son grand-père s'endorme pour aller chasser le loup. Le chat monte se réfugier dans l'arbre pendant que le canard, qui tout excité était sorti de la mare, se fait avaler par le loup. Pierre prend une corde et en escaladant le mur du jardin grimpe dans l'arbre. L'oiseau décide d'aller voltiger autour de la tête du loup pour détourner son attention. Pendant ce temps, Pierre forme un nœud coulant avec lequel il parvient à attraper le loup par la queue. Les chasseurs sortent de la forêt. L'oiseau dit aux chasseurs qu'il y avait le loup dans la forêt. Ces derniers vont aider Pierre, mais Pierre les arrête car il a attrapé le loup. Tous ensemble entament une marche triomphale pour emmener le loup au zoo.
ça.
Et voilà.
Bah, merci Wikipédia.
Oui, je me souviens.
Mais ça ne me dit pas la morale, parce que en fait, c'est qu'il est astucieux et qu'il faut des fois désobéir.
Mais je pense quand même qu'il ne faut pas crier au loup.
Non, ça n'a rien à voir.
C'est notre histoire.
De sortir de chez soi pour affronter le loup et grandir.
C'est courage, c'est presque l'inverse de la chèvre de Monsieur Gris, puisqu'il transgresse et réussit.
C'est le courage. C'est son courage qui revient à l'épreuve. Et y a-t-il d'autres textes que vous aimez lire?
En plus,
y a-t-il d'autres textes? Y a-t-il d'autres textes que vous aimeriez lire comme ça, dans ces conditions, ou même des textes seuls?
Il y en a plein.
Un texte, s'il fallait choisir un texte, là, tout d'un coup, vous aimeriez donner à entendre avec votre voix à vous et votre sensibilité? Pascal a une idée en attendant.
Ah, vas-y Pascal.
Le discours de Stockholm de Camus. C'est simple, c'est pas...
Mais Nagui va nous le lire, là. Vas-y, Nagui. J'ai plus de réseau.
Il y a moins de musique.
Agnès, une idée?
Je vous la dirai, je vais réfléchir.
Arrête de le torturer.
Mais j'ai bugué, vous avez remarqué, depuis un certain...
Je poursuis avec vous, Pascal. Donné, là, comme ça, on laisse Agnès réfléchir. Un son pour vous, Pascal.
Plus que 8 minutes. C'est à la bonne vitesse.
Ouais. C'est le mama.
Fait du yoga.
Non. C'est un mantra pour le dieu Ganesh qui appelle à la réussite et à la suppression des obstacles. Ah, et je ne sais pas si vous chantez ça souvent, apparemment, non.
Pas du tout. Mais j'ai un Ganesh toujours chez moi.
Vous avez un Ganesh, je crois. Ouais. C'est ça, sur votre table de chevet.
Ouais, toujours. Depuis très longtemps, je suis allée en Inde une fois.
Le dieu à tête d'éléphant.
Hein, exactement. Et puis c'est aussi le dieu de la fécondité. Et moi, j'avais l'endométriose, cette fameuse maladie dont on parle plus. Et heureusement, c'est un vrai fléau, et psychologique et physique. Et je ne pouvais pas avoir d'enfant. Je suis allée en Inde et on m'avait dit, bon, tu prends un Ganesh en bois, on ne sait jamais. Et puis j'ai eu la chance de rencontrer un très bon médecin. Donc je ne pense pas que ce soit Ganesh.
Mais Ganesh était là quand même.
Mais c'est un petit Ganesh en bois qui sentait bon. Et je l'ai donné à quelqu'un qui était malade et ça ne l'a pas du tout aidé. Mais j'en ai un tout petit en argent. Et j'adore. Et je ne suis pas du tout fétichiste, je n'ai pas les trucs, mais Ganesh...
Un peu de spiritualité dans ce monde de brut, quoi.
Oui, oui, oui.
Ça ne fait pas de mal.
Et j'en mets dans ton ordre. Ouais.
Oui, des cadeaux. Alors justement, pour vous, Pascal, puisque les bandes dessinées, c'était interdit quand vous étiez petite, c'était Sartre. Et ben, je vous offre Isadora.
Je n'en veux pas, papa, j'en veux pas, papa, du tout.
Isadora aux éditions d'Argo.
Je disais Harakiri, je disais, voilà.
Très bien.
Alors là, c'est une bande dessinée sur Isadora Duncan, aux éditions d'Argo, de Julie Birmand et de Clément Oubrerie, qui retrace son itinéraire. Ce qu'on sait moins, c'est qu'elle avait croisé Rodin, qui lui avait fait des avances. Elle avait refusé, elle a regretté un petit peu après.
Ouais, et puis elle est bien foulard, elle a regretté aussi.
Voilà, elle s'est un peu promenée dans le monde entier. Elle vivait nue comme une déesse en Grèce. Elle a eu une belle vie, je crois. Et pour vous, Agnès Jaoui, je vous offre Il n'y a pas d'amour heureux. Louis Aragon, Les Grandes Heures, c'est une coproduction INA et Radio France. L'occasion du 120e anniversaire de la naissance du fou d'Elsa, de la voix du fou d'Elsa. C'est l'intégrale des entretiens de Louis Aragon avec le producteur Francis Crémieux. Des entretiens enregistrés entre 63 et 64. C'est rare. Certains sont... D'ailleurs, ce sont des témoignages inédits qui n'ont jamais pu être entendus jusqu'alors. Et c'est pour vous.
Merci beaucoup.
Il disait que l'avenir de l'homme est la femme. Elle est la couleur de son âme. Elle est la rumeur et son bruit. Et sans elle, il n'est plus qu'un blasphème. Ça vient du fou d'Elsa. Ça tombe bien.
Voici donc demain le rendez-vous que nous vous donnons avec ce film Aurore porté par Agnès Jaoui et Pascal Arbiot qui sont nos invités. Agnès, vous nous aviez parlé de l'écriture d'un film avec Jean-Pierre Bacri autour du monde de la télé ou de la télé-réalité. En tout cas, vous avez fini cette écriture. Oui. C'est le projet est resté dans ses rails en l'occurrence, c'est-à-dire cette télévision entre guillemets dont on peut se moquer déjà.
Alors, pas tellement la télé-réalité, ça parle de la célébrité, entre autres, et Jean-Pierre jouera un animateur en perte d'audience. On tourne en août-septembre.
Comment on a...
Si vous avez besoin de figurants...
Non, elle va prendre des professionnels et des gens qui jouent bien, c'est quand même important. Le 27 décembre, vous serez, Pascal, à l'affiche de Momo.
Oui. Oui.
Alors expliquez-moi, qu'est-ce qui s'est passé dans le casting? Il y a eu des changements?
Qui fait quoi alors, oui.
C'est une pièce de théâtre, il faut le rappeler.
C'est une pièce de théâtre de Sébastien Thierry, avec François Berléand et Muriel Robin.
Muriel Robin notamment.
Voilà,
qui ne sont plus
non,
dans le film.
Ils sont pas,
alors qui va jouer?
C'est Christian Clavier.
Et vous?
Catherine, pas du tout, Catherine Froh.
D'accord.
Et après deux rôles secondaires. Enfin, non, il y a Sébastien Thierry qui reste au moment. Et moi, je fais une aveugle.
Donc vous êtes la compagne,
je suis la compagne
de Momo.
De Momo. Ouais. Non, Momo étant maman.
Ah oui, pardon, de Sébastien Thierry, pardon.
Sébastien Thierry, voilà, non, exactement.
Il a une chérie, c'est vous.
Exactement. Exactement.
Et on vous retrouvera également dans Marilyn de Guillaume Gallienne.
Oui.
Il y a déjà une date de
non,
prévu.
Non, je ne crois pas, mais peut-être, parce que je ne crois pas. J'ai un tout petit rôle, mais j'ai fait aussi par amitié et par envie de. Parce que le scénario est magnifique.
Très, voilà,
très beau scénario.
Aurore, c'est demain au cinéma avec Agnès Jaoui, Pascal Arbillot. Et Daniel, on a des excuses, j'imagine, à présenter après tout ce qui s'est passé.
Évidemment, désolé tout d'abord pour tous les hommes, les vrais, les bruts, les tatoués, les couillus, les supporters de foot qui nous écoutent et qui ont trouvé cette émission, comme disait Nagui, cette émission de Harpy qui ne pousse même plus le caddie, insupportable. Eh bien, je m'insurge, messieurs, même si on redresse la barre dès demain, promis, on reçoit Zemmour et Bigard. Désolé pour nos auditrices qu'on a rendu nostalgique de leur jeunesse en parlant de la cinquantaine. Oui, promis, on se rattrape bientôt avec une spéciale mort et un live de Charles Aznavour. Désolé pour tous les fans de Pascal Arbillot qui comptaient lui proposer un petit rôle dans une sextape ou un film de mariage. Désolé, elle est cool, mais elle sélectionne un peu quand même.
Demain, c'est Yves Bigot. Avec lui, on parlera musique et rock'n'roll. Et Texas sera ici en live. Aurore, c'est demain au cinéma.
Ouais,
exactement. J'ai oublié de dire que le décor d'Aurore était d'Éric Bourges, quand même, ce qui était important, et le costume de Marie Le Garec.
Et aussi Anne Rosemary, un petit peu au scénario de ce film qu'il faut
Jean-Luc
mentionner Gaget, avec son spectacle Le Chaton Violent.
Réalisé, par Blandine Lenoir, scénarisé, dialogué aussi par Blandine Lenoir et brillamment interprété par toute cette troupe de comédiens. Merci d'être venu donner de votre temps.
C'est demain
de votre
sortie.
Temps.
Ouais. j'ai pas noté. Donc,
Philippe Bertrand pour les carnets de campagne. Bonjour Philippe.
Oui, salut Nagui. Bonjour
salut,
tout le monde.
Philippe.
Je suis désolé, j'étais bloqué dans les urnes hier. Pour en sortir, il faut se dépouiller. Il ne reste plus grand-chose.
Et vous y retournez de toute façon?
Un peu, mon neveu.
J'espère. Bonne émission, merci.
Salut les amis.
Courage.